La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parcourons aujourd'hui la vie d'Edgar Poe au premier jour d'une semaine qui lui est consacrée. Une vie dont on sait qu'elle a fasciné Baudelaire, on va beaucoup en parler. Ainsi qu'on l'entend aussi dans cette lettre que Baudelaire avait envoyée à la tante d'Edgar Poe qu'il aimait tant, Maria Clemm.
À Maria Clemm, à Milford, Connecticut, États-Unis. Il y a bien longtemps, madame, que je désirais réjouir vos yeux maternels par cette traduction d'un des plus grands poètes de ce siècle. Mais la vie littéraire est pleine de chaos et d'empêchements, et je crains que l'Allemagne ne me devance dans l'accomplissement de ce pieux hommage à la mémoire d'un écrivain qui, comme les Hoffmann, les Jean-Paul, les Balzac, est moins de son pays que cosmopolite. 2 ans avant la catastrophe qui brisa horriblement une existence si pleine, si ardente, je m'efforçais déjà de faire connaître Edgar Poe aux littérateurs de mon pays. Mais alors, l'orage permanent de sa vie était pour moi chose inconnue. J'ignorais que ces éblouissantes végétations étaient le produit d'une terre volcanisée. Et quand aujourd'hui, je compare l'idée fausse que je m'étais faite de sa vie avec ce qu'elle fut réellement, l'Edgar Poe que mon imagination avait créé, riche, heureux, un jeune gentleman de génie, vaquant quelquefois à la littérature au milieu des 1000 occupations d'une vie élégante avec le vrai Edgar, le pauvre Eddie, celui que vous avez aimé et secouru, celui que je ferai connaître à la France. Cette ironique antithèse me remplit d'un insurmontable attendrissement.
Alors, Isabelle Vieville de Georges, cette fascination de Baudelaire envers Poe, elle tient beaucoup, comme d'ailleurs pour beaucoup de ses lecteurs, à cette espèce d'aura de déchéance et de mystère qui entoure la vie. En plus, évidemment, des textes magnifiques, mais ça vient s'ajouter comme une sorte de légende. Et l'alcool, d'ailleurs, en particulier, joue beaucoup dans cette légende.
Oui, alors Baudelaire a été aussi très tributaire du testament, entre guillemets, de Rufus Griswold, qui était un auteur d'anthologie de poésie américaine. Et on ne sait pas pourquoi, on pense d'ailleurs que peut-être Maria Clemm y est pour quelque chose, ou alors en tout cas, il a prétendu au moment de la mort de Poe qu'il était son exécuteur testamentaire. Et il en a profité pour régler ses comptes avec un auteur qu'il haïssait et il l'a traîné dans la boue.
Alors comment cette Maria Clemm, qui semble être toute de bonté, a pu laisser arriver une chose pareille ?
Pour le coup, ce sont des mots de Baudelaire qui me reviennent... sur la sagesse bourgeoise des bonnes femmes. C'est un petit peu de cet ordre-là. Je pense que Maria Clemm ne devait pas comprendre grand-chose au génie d'Edgar Allan Poe, et même si elle l'aimait beaucoup, c'est elle qui a géré sa vie, enfin l'intendance réelle de sa vie depuis... depuis qu'Edgar Allan Poe a épousé sa fille, en tout cas.
Et on va raconter aussi cette histoire.
Voilà, et elle a eu fort à faire, enfin, parce que vraiment l'argent est parfois venu à manquer. L'alcoolisme de Poe, c'est vraiment quelque chose de très sujet à caution. Il est clair qu'il a eu des gros épisodes alcooliques.
Et donc c'est l'exécuteur testamentaire qui écrit une nécrologie Poe et qui semble dire que c'est un dépravé total.
Et qui a été la référence pendant 2 ans, le temps que ses amis, sous le coup de l'émotion, ne finissent par s'en rendre compte et ne commencent à élaborer de nouvelles réponses. Et de nouvelles biographies, et qu'une autre parole se libère autour d'Edgar Allan Poe, lui rendant justice au moins de toutes ses qualités littéraires.
Mais Baudelaire, lui, il a lu
Griswold.
Oui, tout à fait. Et il pense que c'est ce qu'on entend dans la lettre.
Hein, voilà, complètement pour argent comptant.
Ça a été sa vie.
Tout à fait. Et voilà, et c'est très dommage. Même si la vie de Poe a été très misérable, est marquée par. À la fois un alcoolisme, mais certainement qui était doublé de maladies nerveuses et cérébrales terribles. Mais il a traversé des périodes de deuil effroyables, des périodes de pauvreté terribles, des périodes où il était. Il y a des moments où il a dû aller à pied de Richmond à Washington, 200 km à pied, pour aller porter des textes. C'est une vie qui ne laisse pas beaucoup de. de repos, ni d'espace pour quoi que ce soit. Donc, Maria Clemm, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a toujours fait ce qu'elle a pu, elle a jamais hésité à les mendier, littéralement, la période où ils étaient à New York. Elle allait mendier devant les, chez les directeurs de journaux, elle allait mendier partout. Elle était habituée
Baudelaire
à ça.
Ça, raconte justement voilà. Dans sa préface.
Et elle mendiait. Et donc, si Rufus Griswold l'a prise avec toute cette espèce de certitude d'homme arrivé, d'homme qui n'est pas contesté, qui est quelqu'un dans la littérature pour lui dire « mais je m'occuperai de vos intérêts », on peut comprendre que cette femme n'ait pas vu malice et lui ait dit « ok, mais d'accord ».
Alors il faut raconter comment Edgar Poe, après ses débuts difficiles dans la vie, une fois qu'il a été abandonné et qu'il a aussi abandonné, parce que c'est un petit peu un double mouvement, John Allan, c'est donc... non, vous avez l'air de trouver qu'il a surtout été abandonné. C'est vrai. Et donc il va chez cette tante qui a elle-même une petite fille,
une fille
quand même pas très âgée, qui doit avoir à l'époque 9 ans. Et là, il se refait une famille, en fait.
Oui, c'est la période de Baltimore. Il n'est pas encore complètement fâché avec John Allan, mais John Allan ne lui donne pas d'argent. En plus, il est très très maltraité. Et par les voisins, les amis, enfin... Donc, de toute façon, il quitte Richmond et il vient s'installer à Baltimore. À cette époque-là, son frère est encore vivant. Son frère était officier de marine. Il vivait dans le grenier de Maria Clemm. Maria Clemm est la plus jeune sœur de son père. Et c'est une femme qui a déjà eu une vie assez malheureuse puisqu'elle a épousé le mari veuf de sa cousine pour s'occuper de ses trois enfants ou ses cinq enfants. Puis après, elle en a eu cinq avec lui. Et visiblement, ça ne marchait pas. Enfin, il était assez brutal et il n'avait pas beaucoup d'argent. Elle s'est occupée des 8 enfants et puis il est mort et puis elle est restée toute seule avec les 8 enfants et un tout petit peu d'argent que lui donnait sa mère à elle. Et donc les enfants de son mari sont partis, d'autres sont morts de la tuberculose. Et à l'époque où Edgar Poe arrive à Baltimore, il ne lui reste que Virginia, la petite dernière, qui porte le nom de sa grande sœur morte de la tuberculose. C'est déjà follement gay comme ambiance.
Pour lui, qui est malade en plus, cet enfant.
Pour l'instant, encore pas tellement. Elle va tomber malade, mais là, en tout cas, c'est indétectable. Et elle a 9 ans, et Edgar Poe, pour payer, entre guillemets, sur le fait d'être pris en charge par sa tante, va lui servir de précepteur. Et voilà, il est très heureux de retrouver son frère, et donc il a une espèce de grande aventure de réunification avec son frère retrouvé. Son frère qui, lui, est très, très alcoolique. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu le cadeau qu'il fait à Edgar. C'est cet alcoolisme-là.
Pour quelle raison?
Parce qu'avant, il n'avait pas tellement eu l'occasion de boire. Et là...
Un drôle de cadeau, alors.
C'est un drôle de cadeau. Et là, l'autre l'emmène, lui ouvre tous les salons. Il a une vie absolument fantastique. C'est un conteur né. Il a fait des choses extraordinaires. Et c'est une période où Edgar se reconstitue, en fait, dans cette fraternité retrouvée. Et c'est merveilleux pour lui puisqu'il y a donc Maria Clemm qui est l'intendance et puis il y a la petite Sissi qui reprend très bien le rôle de la petite Rosalie finalement et c'est magnifique et en plus il transmet son savoir à Virginia et ça c'est très très important surtout par la suite, c'est le premier lieu de substitution de quelque chose de réel dans son écriture et on le voit beaucoup dans les nouvelles comme Ligia ou Morella. Poe substitue la transmission du savoir à l'expérience amoureuse et à l'exercice du lien conjugal plus
voilà,
tard.
Alors là, il faut expliquer quand même que Poe va donc se marier avec cette petite fille, bon, pas quand elle a 9 ans, mais enfin quand elle en a 13.
Pas beaucoup plus tard, oui.
Et vous expliquez qu'il y a une manière, alors je ne sais pas si on est dans la psychanalyse là, mais de rester un enfant pour Edgar Poe, qui n'aura pas, dites-vous, il n'y a pas d'éros, enfin, dans ce couple-là.
Les biographes sont tous à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a probablement pas de consommation de mariage. Moi, je pense qu'on ne sait jamais, de toute façon, on n'y est pas, donc on n'en sait rien. Mais effectivement, ça semble cohérent. Et je ne suis pas sûre que ça ressorte, en l'occurrence, de la psychanalyse, mais peut-être juste d'une symbolique, en fait. Je pense qu'on est tous symboliques et qu'on obéit à des patterns un peu...
Des schémas.
Voilà, des schémas. Ce serait plus jungien, en fait.
Alors, il plaisait quand même beaucoup aux femmes. On a beaucoup raconté, et Baudelaire d'ailleurs
très
le
magnétique.
Dit aussi, que c'était un homme qui était très beau. Il a eu beaucoup de femmes, alors, en dehors
Beaucoup de femmes sont tombées amoureuses de lui pour son bonheur et son malheur, effectivement. Et alors, lui était très heureux quand il a j'ai envie de dire, sécuriser Virginia, puisqu'il était question que Virginia, en fait, soit confiée à un de ses cousins qui avait de l'argent pour parfaire son éducation. C'est pour ça qu'il l'épouse si vite, à l'âge de 13 ans. Et d'ailleurs, il falsifie toutes les licences de mariage. Une fois qu'il est marié avec Virginia, il a enfin ce regard admiratif tourné vers lui. Il a cette transmission du savoir et cette espèce d'effet Pygmalion également, qui le contente amplement. La première liaison qui lui est connue après, ce sera après la publication du Corbeau, justement la période où il se trouve à New York. Ce sera Fanny Osgood, une femme de lettres. Mais c'est plus un marivaudage amoureux, puisque de toute façon, c'est... Alors, il appelle Virginia Sissi, qui est le diminutif d'Elisa, qui est le nom de sa mère aussi, c'est intéressant. Mais aussi Sissi, petite sœur. Sissi lit les lettres de Fanny Osgood à Edgar Allan Poe, et le mari de Fanny Osgood fait les portraits d'Edgar Allan Poe à l'aquarelle. Donc tout le monde a voulu voir une liaison là où il y avait probablement juste un amour courtois, platonique, littéraire.
Bon, il y aura d'autres femmes. Alors après la mort de Virginia, parce que malheureusement,
elle meurt assez jeune. Elle meurt en 47, oui.
Comme tout le monde.
À 24 ans de la tuberculose.
Voilà, 24 ans, c'est l'âge auquel malheureusement les proches de Poe meurent en général. Alors il y a d'autres femmes, donc Elisabeth Ellet, ça c'est la jeune femme de lettres cultivée, peu scrupuleuse.
Elle est terrible, elle est absolument terrible. Elle est tombée amoureuse de Poe et elle n'arrive pas à trouver son chemin jusqu'à lui. Elle le persécute un petit peu, elle le harcèle. Elle va jusque chez lui et elle trouve une lettre de Fanny Osgood dans l'entrée et elle la prend et elle revient dans les salons littéraires de New York et elle fait la morale à Fanny Osgood en disant « Mais voyons, votre correspondance ». Et là, il y a un scandale terrible qui se déchaîne, mais vraiment terrible. Fanny Osgood, évidemment, est outrée, demande le retrait de... Enfin, demande à Poe de lui restituer sa correspondance. Et Poe est absolument furieux. Et perd son sang-froid, ce qui était toujours, il incarnait absolument la courtoisie de l'homme du Sud jusqu'au bout des ongles. Et là, il perd son sang-froid et il dit à Elisa de se préoccuper plutôt des lettres qu'elle lui a envoyées. Sur ce, son frère vient les réclamer. Poe dit qu'il les a déjà posées. Un scandale éclate. Le frère de Madame Ellet le provoque en duel. Voilà, je cherchais mon... Le provoque en duel. Le duel ne se fera pas. Entre-temps, Poe a voulu aller chez un de ses amis qui s'est retourné contre lui et qui devient son pire ennemi. Et en fait, ce sera à l'origine de la plus terrible guerre littéraire que Poe a lancée, puisqu'il a été humilié absolument par toute la bonne société littéraire new-yorkaise et bostonienne. Il va lancer sa troisième guerre, la guerre contre la Nouvelle-Angleterre, contre la Nouvelle-Angleterre et l'établissement, ouais, l'établissement new-yorkais, les littérati.
Bon, c'est vrai que c'est un homme en guerre, à peu près tout le temps.
Tout le temps.
Il a peur de rien, il affronte tout le monde. Et puis, ça se sent parce que quand il fait des conférences, il fait beaucoup de conférences, il fait beaucoup de lectures. Mais alors parfois, il arrive à des conférences et puis il avait promis à l'assistance un nouveau poème. Et en fait, il n'a pas du tout écrit ce poème. C'est pas grave, il n'en a pas peur. Mais évidemment, ça lui pose quelques problèmes, Isabelle Vieville de Georges, cette attitude.
Oui, alors en fait, il se sentait très mal. C'était une conférence à Lowell ou à Boston. Boston, c'était vraiment le haut lieu de la littérature américaine, le lieu originel, là où se trouvaient tous les grands auteurs les plus incontestés du moment. Et il ne veut pas aller à cette conférence, il n'est pas bien, il a eu plusieurs épisodes cérébraux ou alcooliques, on ne sait pas très bien, et il se sent vraiment mal, il a perdu les textes soi-disant de sa conférence, il demande à ses amis de lui écrire le texte, ses amis ne veulent pas, et ils viennent avec, ils disent « je ne peux pas aller à ma conférence, je n'ai pas mes textes », ils vont dans la chambre avec lui, et finalement on découvre les textes planqués au-dessous de l'armoire avec des scotchs, du papier, enfin ses tenues, je ne sais pas comment.
On sent le délire de Poe là.
Complètement, il est déjà dans une espèce de manipulation, où les choses ne peuvent pas être simples, c'est pas « je ne suis pas bien, je ne peux pas faire cette conférence », c'est « il faut absolument créer un stratagème ». Et finalement, donc, il part avec cette conférence à la main qu'il n'a pas révisée du tout. Et quand Poe est au plus bas, Poe contre-attaque avec beaucoup de violence. Donc, ne sachant plus quoi faire, il finit par leur réciter « El Araf », qui est un poème qui date de sa jeunesse. Les gens ne comprennent pas très bien, parce que c'est pas quand même le meilleur de ses poèmes, puis ça n'a rien à voir avec ce qui était venu raconter. Quelqu'un essaye de sauver la situation en lui faisant réciter le corbeau, mais ça ne suffit pas. L'humiliation est publique, les gens se lèvent, le brocarde, enfin c'est vraiment un camouflet. Donc Poe va allumer ce qui est dans l'ordre chronologique sa deuxième guerre, celle contre la Nouvelle-Angleterre, et donc il va s'emparer des journaux et pour commencer à démolir l'establishment bostonien, en disant que de toute façon il les a roulés dans la farine, il leur a donné des œuvres de jeunesse et qu'ils n'y ont rien vu, rien que du feu, et voilà.
Mais ça n'empêche pas tout cela qu'il est extrêmement populaire quand même.
Très, d'abord il fait beaucoup parler de lui. Les tribunes sont pleines de ces hauts faits, où il y a toujours un scandale, donc ça c'est quand même toujours très intéressant, il fait couvrir un frisson. Et puis il y a quand même, en 45, il y a eu quand même la publication du Corbeau, qui a été absolument sans égal, et qui, quelle que soit la postérité de Poe aux États-Unis, reste quand même et a traversé absolument toute l'époque et tous les oublis qu'on aurait pu avoir de sa personne par ailleurs. Et le Corbeau a vraiment eu il y avait une sorte de merchandising. Le Corbeau apparaît partout. Alors évidemment, c'est pas comme maintenant. S'il y avait eu des t-shirts, il y aurait eu des t-shirts du Corbeau absolument partout.
Il y en a aujourd'hui des t-shirts de Poe, hein, parce qu'il est vraiment très ancré dans la pop culture, surtout aux États-Unis.
Oui. Mais déjà à New York, à ce moment-là, tout est corbisé. Les corbards de Corbeau fleurissent partout. Sa silhouette, d'ailleurs, on ne l'appelle plus que le Corbeau. Donc il a une espèce d'aura, il a cette espèce de pouvoir de nuisance dans les journaux déjà. Ses critiques absolument d'une férocité sans égale. Et puis cette maîtrise dans ce poème qui est très très musical. Tout ça, ça lui. Il a quand même le personnage, c'est le fureux.
Et alors c'est un personnage sulfureux, d'autant plus qu'il va avoir une mort également un peu sulfureuse et puis aussi assez inexpliquée, Isabelle Vieville de Georges.
Oui, alors ça sera vraiment à la toute fin donc de sa vie. Il n'a que 40 ans. Il n'a que 40 ans. Il a tout perdu. Il est allé au bout de lui-même. Il est complètement à bout de ressources. Il redescend vers le sud. Il s'arrête à Philadelphie, complètement ravagé par le choléra. Et il en fait une période absolument terrible. Il se passe encore moult épisodes. Péripétie. Et il prend son vapeur pour aller à Baltimore. Et à Baltimore c'était une époque électorale. Donc la fraude électorale était déjà là. Et on va retrouver Poe complètement hagard et dépenaillé. Et il va mourir.
On ne sait pas très bien comment. Bon, vraisemblablement, il avait un peu trop bu.
Un mystère.
Mais en tous les cas, il sera dans le service des alcooliques à l'hôpital de Baltimore, où il mourra donc après avoir déliré pendant plusieurs jours. Il meurt le 7 octobre 1849. Merci beaucoup, Isabelle Vieville de Georges.